Merci pour cette invitation. Je vais donc essayer de vous présenter un tableau réfléchi, un tableau critique de la crise, de ce qu'on a appelé la crise des migrants, la crise des réfugiés. Et c'est une formule que j'avais sortie il y a quelque temps, que finalement nous étions dans une situation où les migrants, où l'Europe faisait face à la crise des migrants, et maintenant c'est l'inverse, ce sont les migrants qui font face à la crise de l'Europe, car la crise des migrants a servi de révélateur, un profond révélateur de toutes nos divisions, les divisions de l'Europe, de nos propres divisions, des divisions aussi qui traversent notre cerveau, je serais tenté de dire. Alors, mettons ça un peu en perspective. On s'en est pas aperçu, mais l'an dernier, en 2004, nous avons franchi un cap important. L'Europe est devenue un continent d'immigration quantitativement au même titre que les États-Unis. Alors bien sûr, aux États-Unis, vous avez l'immigration illégale, qui est difficile à chiffrer, mais si on se contente de l'immigration légale, l'Europe reçoit autant de migrants que les États-Unis. L'Union européenne, 1,9 million d'immigrants pour 508 millions d'habitants, c'est du 3,7 pour 1000, du 0,37%. Je ne compte pas là-dedans les migrants qui sont internes à l'Union européenne. Les États-Unis, c'est 1 million d'immigrants pour 319 millions d'habitants. Et vous voyez que nous avons un taux d'immigration annuel qui est maintenant supérieur à celui des États-Unis. Donc il faudrait qu'on s'imprègne de cette idée. L'Europe est un continent d'immigration, un grand continent d'immigration. Et ce n'est pas surprenant. Hein, nous sommes un continent riche malgré toutes les crises économique, et notamment la crise de 2008, dont nous subissons encore les conséquences. Voilà, et ce rattrapage s'est fait en 2014. Alors, je vais utiliser une expression qui n'a pas de valeur scientifique ou légale très forte, qui est un peu pragmatique. Je vais essayer de distinguer l'immigration ordinaire et l'immigration extraordinaire. L'immigration ordinaire, c'est une immigration continue, et la France est particulièrement forte là-dessus. Nous recevons chaque année à peu près 200 000 migrants non européens à qui nous délivrons un premier titre de séjour d'au moins un an et au titre des droits, du droit à épouser qui l'on veut, y compris des étrangers, du droit à vivre en famille, du droit d'asile en partie aussi, et puis cette espèce de droit un peu nouveau qui est en train d'émerger, qui est le droit de faire des études supérieures dans une université de qualité à l'étranger, qui est en train de s'imposer pratiquement comme une sorte de droit. Et puis, en face de cela, vous avez la migration extraordinaire, donc ces exilés, ces fugitifs, qui frappent à la porte de l'Europe, au péril de leur vie, et évidemment au gré des conflits qui se concentrent notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique. On a aussi l'Ukraine en Europe, comme exemple de ces pays générateurs de migration, de refuge. Évidemment, si ça se répète, la migration extraordinaire entre dans l'ordinaire des choses, mais enfin, elle est quand même liée à des événements. Et vous allez voir qu'au fond, ce qui est frappant, ce qui est très très frappant, et on ne sait pas trop pourquoi, on commence à s'interroger là-dessus, les pays européens diffèrent très fortement selon leur capacité à mettre en avant la migration ordinaire, accueillir plutôt la migration ordinaire, la migration extraordinaire. Et vous allez voir à quel point les contrastes sont saisissants. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut essayer de comprendre un petit peu le comportement étrange de la France face à la crise actuelle. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est assez rude, assez grossier, mais qui a l'avantage de montrer à quel point les histoires de quelques grands pays européens, je ne vais pas tous les prendre, je vais en prendre quatre simplement, diffèrent depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et vous comprendrez comment, pourquoi il est extrêmement difficile de coordonner, d'harmoniser des politiques migratoires quand on a des histoires aussi différentes. Et je vais commencer par prendre quelque chose de très brut, qui est la dynamique démographique des pays. Je vais commencer par la France. Et vous avez ici, vous voyez, année après année, la croissance de la population, deux couches superposées, deux couches additives. En bleu, vous avez l'excédent des naissances sur les décès, ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est une vieille expression qu'on traîne encore en démographie. Et par-dessus, en rouge ou en rose, l'accroissement migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. sachant que ceci peut inclure un solde des étrangers et un solde des Français, des natifs. Alors, c'est une comptabilité qui est là pour la France, c'est faite sur la métropole, et donc vous avez en 62 cette flèche prodigieuse qui monte, ce sont évidemment les rapatriés d'Algérie, ça monte encore bien plus haut, hein, ça sort du graphique, 1 million de rapatriés accueillis d'un coup en 1962. Voilà. Mais alors ceci est exprimé non pas en chiffres absolus, mais en proportion, et les démographes utilisent non pas les pourcentages, parce que les chiffres seraient trop petits, mais les pour mille, c'est la façon habituelle qu'ont les démographes de s'exprimer là-dessus. Donc, un commentaire très rapide. Vous avez ici le baby-boom qui dure encore, qui dure depuis 1946, qui va se terminer au milieu des années 70, un quart de naissance en moins ici, mais nous continuons d'avoir un solde naturel positif, plus de naissances que de décès, et nous sommes de loin le pays d'Europe qui a le plus fort accroissement naturel en Europe. Et puis, vous avez ici donc le solde migratoire. Il y a à la fois les expatriations de Français, les retours de Français, les étrangers, mais enfin, pendant toute cette période-là, sauf ici, où ça a été étudié récemment par l'INSEE, nous savons que ce solde est essentiellement le solde des étrangers. Ici, vous avez... essentiellement le solde des étrangers. Là, nous avons le solde des étrangers étant été à cette hauteur-là. La différence étant due au fait que le solde des Français est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a à peu près 4 fois plus de départs de Français pendant cette période qu'il n'y a de retour. Mais ce sont essentiellement des étudiants. C'est une chose que le recensement tournant annuel de l'INSEE permet maintenant de connaître depuis très peu de temps. Voilà donc l'image de la France. Et vous voyez que la migration, même si on fait cette correction-là qui est importante, ne compte qu'au maximum pour la moitié de l'accroissement, l'accroissement général de la population. Le plus souvent, dans toutes les périodes, les décennies récentes, c'était un tiers, un quart, cet ordre de grandeur-là. Bon. Si maintenant nous passons à l'Allemagne, c'est la même échelle, c'est en proportion. Et vous voyez tout de suite que l'histoire est totalement différente. Et vous voyez tout de suite que ce profil en montagne russe n'a rien à voir avec le nôtre. Et c'est là une des interrogations essentielles que je vais avoir dans cet exposé. Comment peut-on expliquer une telle différence entre deux pays limitrophes? Alors d'abord, vous avez la couche bleue qui correspond au sol naturel, et vous voyez que l'Allemagne a un baby-boom très rapide, très tardif, qui dure seulement quelques années, dans les années 60. Ça s'effondre, et ensuite, le solde est négatif, ce qui veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances dans toutes ces périodes-là, et c'est encore le cas actuellement. Et l'Allemagne est entrée dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique, c'est-à-dire un nouveau régime démographique où les unions sont rares, sont tardives, il y a moins de naissances, et la migration, du coup, joue un rôle considérable dans le rééquilibrage de la dynamique démographique. Alors, vous voyez que l'Allemagne, par rapport à la France, où je reviens, qui avait, pour sa reconstruction, fait appel à des volumes considérables de travailleurs immigrés, l'Allemagne a commencé, s'est lancée dans l'immigration un peu plus tard que la France, à peu près 7-8 ans plus tard. Elle a eu des interruptions assez fortes liées à certaines crises économiques. Le solde migratoire, à plusieurs reprises, est tombé à zéro. Et ceci, cette relative faiblesse de l'immigration par rapport à la France, explique qu'aujourd'hui encore, nous avons proportionnellement moins de seconde génération que l'Allemagne. La seconde génération, c'est techniquement les enfants d'immigrés, d'un ou deux immigrés, mais qui sont nés en France. Nous en avons proportionnellement moins parce que nous avons eu une continuité dans l'immigration que l'Allemagne n'a pas eue. Nous en avons plus que l'Allemagne parce que nous avons une continuité. Et alors, vous voyez qu'ici, l'Allemagne a été le grand pays d'immigration de l'Europe dans les années 90. C'est la conjugaison de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord la chute du mur qui amène... Alors, l'Allemagne de l'Est ne compte pas là-dedans. Hein. C'est une Allemagne qui a été rétrospectivement réunifiée. Mais vous avez ici, les Ausiedler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ethnic Germans, les Allemands, les Russes ou les Kazakhs, il y a pas mal de Kazakhs aussi qui étaient plus ou moins d'origine allemande et qui ont eu une sorte de droit du retour et qui sont revenus en Allemagne. Vous avez surtout les Yougoslaves, les Croates, etc., se sont réfugiés en Allemagne à l'occasion des guerres de l'ex-Yougoslavie. Vous avez aussi les migrants yougoslaves qui devaient revenir chez eux, mais qui ne sont pas revenus chez eux, qui sont restés en Allemagne. Donc tout ceci fait que, dans cette année 92, qui est le sommet, vous avez eu à ce moment-là 800 000 habitants de plus en Allemagne dans cette seule année liée au sol migratoire. 800 000, c'est un chiffre à retenir, car c'est un chiffre que Angela Merkel a retenu. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc l'Allemagne est habituée à accueillir des réfugiés qui repartent lorsque les conflits s'interrompent. Et donc, vous avez ici, par exemple, en 2006, 2008, 2009, des soldes qui sont même devenus négatifs, ce que nous n'avons jamais eu. Donc c'est une histoire totalement différente. Et bien sûr, maintenant, ça repart. Et nous avons ici le record de 2015 qui pousse le solde migratoire aux environs de 13-14%, ce qui est considérable. Alors, regardons un autre pays, l'Espagne. Troisième pays, troisième histoire. C'est vraiment spectaculaire. Hein. Et je pourrais ainsi parcourir toute l'Europe. Alors, rassurez-vous, ce sera seulement le troisième de mes quatre pays. Mais vous voyez, là, l'histoire est totalement différente. Ben oui, parce que nous avons d'abord eu un pays qui n'avait pas fini sa première transition démographique, qui avait un énorme excédent de naissance sur les décès, mais qui a fondu. Ce pays envoyait des migrants dans toute l'Europe, donc il avait un solde migratoire qui était négatif, comme ça se voit bien ici. Et puis, en 1973-1974, je ne l'ai pas commenté tout à l'heure, mais on le voit dans le cas de l'Allemagne comme dans le cas de la France, vous voyez que là, en 1974, en Allemagne, on suspend l'introduction directe de travailleurs, et en Allemagne, on l'a fait un an plus tôt, en 1973, l'immigration s'est interrompue. Alors l'Espagne subit, évidemment, directement le contre-coup de l'interruption de la migration de travail qui avait été décidée en 1973-1974 par la France et l'Allemagne suite à la crise pétrolière. Hein, c'était ça la cause première. L'Espagne entre dans l'Union européenne en 86. Alors il faut que je retrouve. Voilà, en 86, par là. Et puis devient un pays d'immigration. Et là, vous avez, alors que l'Allemagne avait été de loin le grand pays d'immigration de l'Europe dans les années 90, dans les années 2000, c'est l'Espagne et secondairement l'Italie. Si je vous présentais le profil de l'Italie, ce serait assez semblable, mais peut-être moins accentué. Et vous voyez qu'on est monté en Espagne dans les années 2000 à des soldes migratoires encore plus élevé que le record allemand de 2015. Comme quoi, c'est possible pour un pays de recevoir un tel surcroît de population. Tout ceci, c'est proportionnel à sa population. Et puis, cette immigration très liée à la construction, à l'immobilier, donc par conséquent, mais aussi l'agriculture, au tourisme, etc., eh bien, c'est une bulle qui s'est effondrée en même temps que la bulle immobilière, la crise de 2008. Et l'Espagne est maintenant redevenue un pays d'émigration, comme tous les instituts de recherche le savent, puisque nous recrutons maintenant assez souvent des chercheurs espagnols ou italiens. Voilà. Alors, je termine par le quatrième pays, qui est le Royaume-Uni. Alors, ce sont les sols migratoires. C'est un peu compliqué. Les échanges entre la Grande-Bretagne et le Commonwealth ont été extrêmement complexes. Mais vous voyez qu'on n'a pas une masse d'immigration significative dans toutes ces années-là. Et là encore, ça explique que la Grande-Bretagne, actuellement, est beaucoup moins de seconde génération, proportionnellement, que nous. D'où des problèmes de nature très différente. Et puis, le baby-boom, vous voyez, a fait que le solde naturel, contrairement à ce qui se passe en France, connaît quand même d'assez grosses fluctuations et une très forte immigration, alors qui est partagée entre l'Europe centrale et les nouveaux pays du Commonwealth, compte maintenant énormément dans la croissance. Voilà, donc vous imaginez les difficultés qu'on peut avoir pour harmoniser une politique migratoire entre des pays qui ont des trajectoires aussi diverses. Alors bien sûr, ces données restent assez grossières, mais les contrastes sont tellement forts entre pays qu'il garde une valeur démonstrative quand même assez forte. Alors, un exemple d'immigration ordinaire, la façon dont fonctionne l'immigration ordinaire, avant de passer à l'immigration extraordinaire, qui est l'immigration de refuge, eh bien, c'est la France. Et là, je vous présente les 200 000 personnes à peu près qui, bon an, mal an, reçoivent un premier titre de séjour des préfectures, un titre de séjour d'au moins un an, hein, c'est ça la définition internationale de l'immigration, c'est être né étranger à l'étranger, franchir la frontière et s'installer dans le pays durablement pour une durée d'au moins un an. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est que l'immense majorité des gens non-européens, hein, ils n'appartiennent ni à l'Union européenne, ni au petit ensemble Norvège, Suisse, Islande, etc., entre pourquoi ? Ben parce qu'ils en ont le droit. Vous avez là-dedans un groupe important, et on en parle beaucoup en ce moment dans la campagne électorale, c'est toute la migration familiale. Elle se décompose en plusieurs ensembles. Alors là, parfois, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les rubriques de fact-checking ou de décodage ou de vrai du faux. Bon, ceci vient du site du ministère de l'Intérieur, qui est doté depuis quelques années d'une équipe de statisticiens venant essentiellement de l'INSEE, qui sont de qualité. Hein. Le système statistique français rayonne partout avec les mêmes critères, et depuis peu, le ministère de l'Intérieur est doté lui aussi d'un service statistique de grande qualité, tout à fait fiable. Alors vous avez ici, en gros, ben, prenons une année moyenne comme 2010, vous avez 50 000 personnes qui sont les familles de Français. Qu'est-ce que c'est ? Un Français a le droit, une Française a le droit d'épouser qui il veut. C'est un droit internationalement reconnu. Et il a donc le droit d'épouser une étrangère ou un étranger et de le faire venir, de faire venir ce nouveau conjoint. Et donc, il déclenche une migration que dans beaucoup de pays, pas en France, on appelle une migration matrimoniale. En anglais, parfois, on parle de marriage migration. Les Néerlandais utilisent aussi cette expression. Là, c'est conjoint de Français, c'est le titre officiel aux familles de Français. Donc, l'appelant, comme on dit, ou le demandeur, est un Français. Il a la nationalité française. Il peut être lui-même d'origine étrangère, mais il se trouve qu'il a la nationalité française au moment où il fait sa demande. Et ceci, ces 50 000 personnes qui arrivent chaque année de pays non européens, c'est plus important numériquement, alors je vais m'habituer à là, que le regroupement familial stricto sensu, qui est aux alentours de 33 000, 35 000, 40 000 personnes selon les années. Là, l'appelant est un étranger ou une étrangère, déjà installée en France, ce n'est pas un Français, mais il a le droit de vivre en famille, de mener une vie familiale normale au titre. Ça a d'abord été reconnu, alors il y a le célèbre arrêt Gisti et Daniel Lochat qui est dans la salle, il y a un arrêt en 78 qui reconnaît le fait que pour vivre une vie de famille normale, eh bien, il faut avoir le droit de faire venir son conjoint, il faut que ce conjoint ait le droit de travailler, mais dès 76, le gouvernement français avait reconnu, après la fermeture de la suspension de l'immigration de travail, que ce droit devait être reconnu. Alors, c'est quelque chose qui hante beaucoup la blogosphère ultra. Un jour, un méchant, Jacques Chirac, a accordé le regroupement familial aux immigrés et il est la bête noire de l'extrême droite pour cette raison-là. C'est pas du tout, en fait... Alors, parfois, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est visé. En fait, c'était pas du tout une décision personnelle, c'était quelque chose, une décision qu'on ne pouvait pas ne pas prendre. Et que le Conseil d'État, d'ailleurs, selon la très belle formule des juristes, le Conseil d'État a dégagé un principe universel qui est le droit à vivre en famille. Et ce droit ensuite, alors cet arrêté est maintenant un petit peu obsolète, il a été surclassé en quelque sorte par la Convention internationale des droits de l'homme, Convention européenne, qui, partant un peu d'une autre base, mais reconnaît le même droit. Donc, alors ce sont les conjoints et les enfants, c'est la famille nucléaire stricte. Alors, s'ajoute à ça les étudiants auxquels j'ai déjà fait allusion, et vous voyez que leur nombre augmente. L'agence Campus France fait une publicité du tonnerre pour attirer les meilleurs étudiants étrangers, et ça marche. Nous faisons partie des 4 ou 5 pays au monde qui attirent des étudiants, avec les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Australie, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes dans le groupe des 5. Et puis, vous avez ici bah, deux... minces couches qui représentent même pas 10% du total chacune, l'asile, dont nous allons parler maintenant plus longuement. Vous voyez que c'est même pas sur les 200 000, ça n'atteint pas, ça n'a jamais atteint 20 000 personnes par an. Alors, c'est pas, ce ne sont pas les décisions positives de l'OFPRA, de la Cour nationale du droit d'asile, parce que s'y ajoutent aussi des personnes qui ont bénéficié, par exemple, du droit à être soigné en France de façon durable. Enfin, ça regroupe un certain nombre de situations humanitaires. Et là-dedans, la migration directe de travail, c'est très peu de choses. Alors, j'ai enlevé là-dedans, parce qu'il y a un titre de séjour donné aux saisonniers qui reviennent au moins 3 années de suite. Je n'ai pas inclus le travail saisonnier, c'est uniquement le travail non saisonnier qui est inclus là-dedans. Ben, là aussi, ça fait 8% du total. C'est très, très faible. Dans certains pays du nord de l'Europe, la migration de travail, c'est plutôt 20% du total de la migration. Au Canada, c'est 40%, quelque chose comme ça. Donc, alors, ce qui est assez étrange, ça, c'est une des énigmes du quinquennat Sarkozy. Là, ça n'existait pas, puisqu'on était toujours sous le coup de la suspension de la migration de travail. Il y avait quelques personnes qui se retrouvaient là. C'était souvent des régularisations qui étaient reclassées au titre du travail ou quelques recrutements de personnes hautement qualifiées très rares. Et en 2006, et la loi de 2006, alors la loi de 2006 explique, c'est la grande loi Sarkozy de 2006, elle explique cette baisse ici, qui est une baisse technique liée à la mise en place du ministère de l'immigration, liée au retard du traitement des dossiers. Il peut y avoir comme ça des glissements d'une année à l'autre qui sont uniquement dus au retard des dossiers. Et vous voyez que pendant tout le quinquennat Sarkozy, mais je rappelle que Sarkozy a été durant 9 années, a eu la haute main sur la politique migratoire de la France pendant 9 années, comme ministre de l'Intérieur à 2 reprises et comme président de la République, où, d'après tous les témoignages qui ont été écrits, il était lui-même le ministre de l'Intérieur. Donc pendant 9 ans, il a été à la tête de la politique migratoire de la France. Et pendant ces 9 ans, ben, finalement, on a une stabilité extraordinaire du nombre d'entrées de non-européens, malgré tous les discours qui tendaient à faire l'inverse. Mais au début, il y avait, vous vous souvenez, passé de l'immigration subie à l'immigration choisie. Vous vous souvenez de ce slogan qui sonnait très bien, qui avait une assonance qui frappait les esprits. Et l'idée, à l'époque, c'était de faire en sorte que la migration de travail choisie, alors il y avait un peu le modèle canadien dans les têtes, devait être au moins aussi importante que toute la migration familiale. C'était ça l'objectif. Il a été proclamé, annoncé à plusieurs reprises de façon extrêmement claire. Il domine tout le débat parlementaire de la loi de 2006, qu'il faut étudier en détail, et vous voyez qu'on ne s'est jamais, jamais à aucun moment approché de cet objectif. Pourquoi ? Ben, d'abord parce qu'on n'a pas fait grand-chose pour attirer les travailleurs. Le Canada, par exemple, si vous voulez migrer au Canada, il y a un site, vous y allez, en quelques minutes, vous découvrez si vous êtes éligible ou pas. C'est extraordinairement efficace. Il y a des points, et puis si vous êtes diplômé du supérieur, si vous avez des années d'expérience professionnelle, si vous êtes... vous parlez à la fois l'anglais et le français, et que vous êtes ni trop jeune ni trop vieux, ça c'est assez cruel, le système canadien, par exemple, moi je ne peux plus immigrer au Canada, je suis beaucoup trop vieux. Voilà. Mais vous accumulez des points en fonction de ces critères, c'est un concours sur capital humain. C'est ça le principe. Ce n'est pas un rapprochement des besoins des entreprises sur le marché du travail, c'est vraiment un concours individuel sur capital humain. On n'a pas organisé ça, on a préféré le système des métiers en tension, je ne m'étends pas là-dessus, qui était une usine à gaz qui n'a jamais fonctionné. Donc du coup, échec total de la politique d'immigration choisie, et c'est en mars-avril 2010 que Claude Guéant, qui venait d'être nommé ministre de l'Intérieur quelques semaines auparavant, décide très abruptement de mettre fin à la politique d'immigration choisie. Et au fond, la politique d'immigration choisie elle-même était considérée comme étant subie. Tout était subi. Voilà, donc ça c'est l'immigration ordinaire. Alors pourquoi l'échec ? Même parce que tout le reste, c'est les droits, c'est en application des droits que nous recevons tous ces migrants. C'est la logique des droits et pas la logique du marché. Alors je m'aperçois que je suis en train de consommer mon temps gravement. Alors du coup, la France est très peu équipée pour s'occuper des migrants extraordinaires. Par exemple, nous ne faisons pas partie des 20 premiers pays donateurs du Haut-Commissariat aux réfugiés. Nous oublions de payer notre cotisation, nous la payons très tardivement, enfin ceci se vérifie très régulièrement. Nous avons reçu des demandes d'asile juste avant la crise, au troisième trimestre 2015, qui étaient en nombre très, très réduit, vous voyez, ça ce sont des nombres absolus, la Hongrie en avait autant que l'Allemagne, ça ne nous a pas empêché, alors quand on rapporte tout cela à la population par million d'habitants, on a encore une image très différente, et vous voyez que la France, juste au début de la crise des migrants, recevait un nombre très très faible de demandes, ça ne nous a pas empêché de... J'ai pris une tête de flèche gauloise du musée. C'est Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, a donné une belle leçon de démocratie aux Hongrois en disant que c'était vraiment de fermer leurs frontières comme ils le faisaient pour les immigrants. Ce n'était pas du tout moral, c'était contraire aux grands principes, etc. D'accord. Enfin, c'était une leçon qu'on donnait de cette position-ci à cette position-là. Quoi. Bon. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, avant de parler morale, éthique, etc., il faudrait quand même avoir un peu une idée des ordres de grandeur. Et ce qu'on n'avait pas du tout en tête à l'époque. Alors, bon, je rappelle, les chiffres ont été rappelés par Stora, 65 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Les pays en voie de développement en accueillent 86%. Et ici, vous avez une série de cartes que vous pouvez trouver sur le HCR. Là, ce sont les personnes déplacées au sein de leur pays. Donc, vous avez là les pays qui sont en quelque sorte générateurs de migration forcée. Tout ceci est connu. Là, vous avez les pays qui accueillent les réfugiés des pays voisins. Et là, vous voyez que l'Europe pèse quand même pas très lourd à côté de tout ce que la Turquie, le Liban, le Pakistan, mais aussi l'Iran doivent accueillir. C'est vraiment très spectaculaire. Et Hélène Thiollet vous parlera de la Corne de l'Afrique tout à l'heure. Et puis, quand on regarde les demandes d'asile en cours, donc les gens qui sont arrivés sur place et qui ont déposé une demande d'asile, vous voyez que c'est l'Allemagne, et la Suède et la Turquie aussi, qui sont loin en tête. La France est quand même très loin derrière. Voilà un zoom sur cette partie-là du monde. Alors, bien sûr, quand on prend les réfugiés statutaires, c'est l'Europe qui a accueilli le plus grand surcroît de réfugiés au cours de l'année 2015. En termes relatifs, c'est bien sur l'Europe que l'essentiel du surcroît s'est fait. Mais vous voyez que l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique du Sud, qu'on oublie toujours, est aussi un grand pays d'accueil des immigrés. Alors, nous connaissons des crises de l'asile régulièrement en France. Nous avons ici, bien sûr, l'impact des guerres de l'ex-Yougoslavie, du Kosovo, la crise actuelle, ça, ce sont les données de l'OFPRA, de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Mais quand on regarde les chiffres par rapport à ce qui se passe en Europe, en gros, nous accueillons, grosso modo, un dixième de ce qui déboule en Europe, à peu près. Hein. Et à chaque fois, c'est l'Allemagne, quand même, qui prend à sa charge le plus gros du surcroît, avec des taux d'acceptation qui sont évidemment actuellement très forts pour les Syriens ou pour les Irakiens, les Afghans, etc., et plus du tout pour les Albanais. Ça, c'est un schéma pour toute l'Europe, mais qu'on retrouve en France, simplement, toutes les nationalités ne viennent pas chez nous. Et je vais passer tout de suite à ce chiffre-là. Quel est le taux d'accord, alors Daniel Lochak en parlera, de décisions positives par rapport aux demandes d'asile qui s'adressent à nous? Eh bien, vous voyez qu'on était descendu à des proportions extrêmement basses à la fin du quinquennat Sarkozy, puisqu'on avait 7%, quelque chose comme ça, de demandes accordées directement par l'OFPRA, au point que les recours étaient plus nombreux que les acceptations premières, ce qui n'est quand même pas normal. Enfin. Et vous voyez que là, avec la crise récente, l'OFPRA est quand même accorde rend des décisions positives plus souvent que la Cour nationale du droit d'asile qui joue qui sert de recours. Alors, un des problèmes intéressants, c'est l'échec du plan Juncker, vous savez, ce plan apparemment très rationnel qui devait répartir tous les migrants en Europe, les migrants excédentaires qui étaient retenus dans certains pays du sud de l'Europe, et il fallait que cette répartition soit proportionnelle à la population du pays de destination, proportionnelle à leur PIB, inversement proportionnelle au taux de chômage, ça c'est la France qui l'a demandé dans les négociations, inversement proportionnelle au nombre de demandes d'asile déjà traitées depuis 5 ans, et... Bon, ça ne s'est pas fait. Hein. Ce plan a complètement échoué. Il a échoué pour toute une série de raisons que j'énumère ici. Bien sûr, il y a la souveraineté, bien sûr, il y a toutes les craintes de l'opinion publique, bien sûr, il y a l'islamophobie, enfin, il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi les préférences des migrants eux-mêmes, car c'est très difficile maintenant de faire un plan de réallocation des migrants qui ne tienne pas compte des préférences des migrants et du degré d'information qu'ils ont sur les pays. Les migrants, moi j'ai pu le voir en Croatie, savent que quel est le taux de... Quel est la, combien Marine Le Pen a de part dans l'électorat en ce moment. Et ce sont des informations dont ils tiennent compte. La question de l'Allemagne, voilà, ça c'est une des télévisions qui avait retransmis les vœux d'Angela Merkel au Nouvel An. L'Allemagne, quel a été son raisonnement? Il y a l'expérience de 92, j'en ai déjà parlé. 800 000 personnes qu'on peut accueillir alors qu'on est 80 millions, c'est 1%, donc ça semblait logique, ça semblait simple. L'intérêt bien compris, certes, et puis il y a toutes les valeurs morales, et ça on le sous-estime complètement, ça a certainement beaucoup joué. Nous sommes dans un pays républicain qui a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, et du coup on a des organisations caritatives qui sont très puissantes en Allemagne. Alors je vais terminer là-dessus, je n'ai pas du tout contrôlé mon temps. Voilà, je vais terminer sur ces deux diapositives ici, parce que l'Allemagne est divisée comme l'Europe est divisée. Il y a au sein de l'Allemagne une division dans la capacité d'accueil, la volonté d'accueil des migrants qui est extrêmement intéressante. Vous avez ici la part de la population qui est soit immigrée, soit enfant d'immigrés en Allemagne au dernier recensement. Et vous voyez que les nouveaux Länder, les Länder anciennement communistes, ici, ont même pas 5% de migrants ou d'enfants de migrants, ce qui est très très faible par rapport au reste de l'Allemagne. Ce sont aussi les Länder qui déclarent le moins une affiliation chrétienne dans le recensement allemand, puisque ça fait partie du recensement allemand, et qui, du coup, aussi, ayant très très peu de migrants, n'ayant jamais été habitués à la migration par le régime communiste, sont aussi le terreau du mouvement Pegida qui refuse les migrants. C'est le paradoxe que ce sont les zones les moins expérimentées en migrants, enfin, qui ont le moins fait d'expérience à la migration, qui sont aussi les plus réticentes à l'accepter. Alors, il y a encore beaucoup de choses à rechercher sur toutes ces questions-là. Il est clair que, par exemple, et je terminerai là-dessus, une des grandes différences entre la France et l'Allemagne, mais c'est une hypothèse, c'est que nous sommes un pays très juridique. Les associations sont des associations de juristes qui veillent à l'application des droits, qui notamment font en sorte que la migration ordinaire puisse fonctionner comme je l'ai montré, alors qu'en Allemagne, on a beaucoup moins cet esprit-là, on a beaucoup plus une organisation humanitaire, une sensibilité à un certain nombre de valeurs qui font qu'on est capable de se mobiliser pour la migration extraordinaire, ce qui est très très peu le cas en France. Voilà, merci beaucoup.